France Inter.
Citoyens et citoyennes,
camarades,
compagnons,
travailleuses, travailleurs,
françaises, français,
et tous les autres, suivez-moi en quête de politique pour compléter notre collection de ismes, mieux comprendre les idées et les mots de la politique, leur histoire, leur signification et leurs évolutions.
En quête de politique. Thomas Legrand sur France Inter.
Le racisme, épisode 1. Nous et les barbares.
Le peuple grec est un peuple d'élection. Notre culture est supérieure. Notre civilisation, nos hommes sont supérieurs.
Attention !
Tous les autres peuples sont des barbares.
Est-ce que quelqu'un peut nier qu'il y a plus de justice, plus d'ordre matériel et plus d'équité, plus de vertu sociale dans l'Afrique du Nord depuis que la France a fait sa conquête ?
L'homme nordique devait être courageux, entreprenant, aventureux. Ensuite venait la race westphalienne, c'était la race de l'attachement à la terre. Après venait la race dinarique, c'était la race montagnarde. Ces trois meilleures races aryennes se trouvaient mêlées en une seule personne, notre Führer.
Propos racistes, passage à tabac. Ils mettent en lumière le traitement réservé par une partie de la population tunisienne aux migrants subsahariens.
Que faudrait-il pour fonder le racisme ? Il faudrait deux affirmations. Un, les races humaines, ça existe. Deux, on peut les hiérarchiser. Or, il se trouve que la science les détruit l'une et l'autre.
Le racisme, vaste question. Il nous fallait bien 4 épisodes pour retracer l'histoire de cet isme, l'un des pires qui aura structuré et continue encore d'ailleurs de structurer bien des politiques à travers le monde. Le racisme n'est pas une idéologie en tant que telle, c'est une attitude et surtout un outil utilisé de tout temps pour dominer et asservir. Le mot n'apparaît que très tard, mais la pratique est bien plus ancienne et surtout protéiforme. De l'ethnocentrisme, du « nous et les barbares des Grecs » aux naturalistes Buffon ou Linné qui, classifiant les espèces vivantes, se sont mis à classifier et à hiérarchiser les humains, du racisme basé sur la religion, les Indiens ont-ils une âme, au racisme scientifique de Gobineau qui inspira le nazisme, des stratégies de chosification et de bestialisation pour justifier l'esclavage ou la colonisation, au darwinisme interprété pour instaurer la discrimination, de la bêtise pure et simple au cynisme, de la croyance à la méchanceté brute, de l'ignorance à la manipulation, le racisme est sans doute la pire des plaies politiques et la mieux partagée au monde. Mais, nous dirons les historiens et historiennes, tout au long des 4 épisodes d'Enquête de politique consacrés au sujet, le racisme n'est pas dans la nature humaine. Il apparaît toujours construit, fabriqué, élaboré, théorisé pour justifier une domination, éviter une concurrence. Pour ce premier numéro, nous allons explorer l'ethnocentrisme, c'est-à-dire la propension des peuples, bien naturelle, à d'abord voir le monde de leur point de vue, au sens littéral du terme, c'est-à-dire à l'observer, l'évaluer, le jauger, le juger à partir de leur situation propre, historique et géographique, et surtout en fonction de ce qu'ils croient être leur intérêt. Les Grecs ne considéraient-ils pas que le monde non grec était peuplé de barbares ? Mais que veut dire barbare ? Est-ce la première manifestation du racisme ? Pas si simple, c'est ce que nous allons explorer aujourd'hui avec l'historienne Adeline Grand-Clément. La semaine prochaine, nous irons à Londres rencontrer l'historien Francisco Bettencourt, spécialiste internationalement reconnu pour ses études sur les prémices du racisme. Et dans la troisième émission, nous verrons que le racisme est partout sur la planète. Enfin, nous verrons comment le racisme est une idée évolutive qui sait s'adapter. Rassurez-vous, en côtoyant tous ces historiens et ces chercheurs pour préparer cette série sur le racisme, je n'ai pas rencontré que de la désespérance, les choses bougent. Mais pour bien lutter contre ce fléau, cette maladie de la pensée humaine, encore faut-il en connaître les origines et les mécanismes. On s'y plonge avec les archives dénichées par Franck Olivard, le tout mis en onde par notre réalisateur Christophe Imbert. Et pour débuter cette série, dont je rappelle que tous les épisodes sont disponibles en podcast sur l'appli Radio France et sur franceinter.fr, nous partons à Marseille, au MUCEM, visiter l'exposition « Une autre histoire du monde » avec l'historien de Paris 1, la Sorbonne, spécialiste des empires coloniaux et de la mondialisation, Pierre Saint-Garavellou. Pierre Saint-Garavellou est co-commissaire de l'exposition. Il reste de cette magnifique exposition qui s'est tenue jusqu'en mars dernier un passionnant catalogue que je vous conseille vivement, publié chez Gallimard. Direction donc Marseille, séquence enregistrée en février dernier avec, pour la prise de son, Juliette Delperroux. Nous sommes ici à Marseille, au Mucem, avec Pierre Saint-Garavellou, historien et commissaire de cette exposition « Une autre histoire du monde » pour débuter notre série sur le racisme. Parce que finalement, le racisme, c'est une question aussi d'ethnocentrisme en histoire et en géographie. C'est une question de point de vue. Est-ce qu'on a raison de commencer cette série sur le racisme par votre exposition, Pierre Saint-Garavellou ?
Alors, ce qui est intéressant, c'est en effet de décentrer le regard, d'inverser la perspective, de changer de point de vue, en sachant que l'histoire est d'abord et avant tout affaire de point de vue. Le point de vue qu'adopte l'historien ou l'historienne pour raconter ce passé.
Point de vue au sens strict du terme, le point de vue de l'endroit d'où on regarde.
Et là, en l'occurrence, dans cette exposition Une autre histoire du monde, nous avons essayé de raconter la manière, les diverses manières dont les sociétés non européennes, les populations asiatiques, africaines, arabes, américaines, ont raconté leur histoire, ont pensé leur rapport au monde. Et donc, on essaie de raconter cela à travers une grande diversité d'œuvres, d'artefacts, d'objets, de cartes géographiques qui restituent cette infinie diversité.
On décentre notre regard et on va commencer par une œuvre, alors qui est une œuvre européenne et même française, mais qui dit bien cette façon de voir qu'on a. On a l'impression que le monde s'organise autour de nous. Et là, il s'agit d'une peinture qui représente Napoléon.
Oui, en fait, c'est une peinture qui illustre magnifiquement à la fois le roman national français et l'ancienne conception de l'histoire universelle.
Alors, on l'a décrit.
C'est un tableau d'Alexandre Véron-Bellecour réalisé au tout début du 19e siècle. Et Alexandre Véron-Bellecour représente ici, sur une toile d'un très grand format, la muse de l'histoire, Clio, qui s'adresse à toutes les nations du monde représentées par différents personnages. Un russe coiffé d'une chapka, un personnage noir, un personnage amérindien, un mandarin Han, même un mandchou. Donc tous ces personnages représentent le reste du monde qui est censé être ébahi devant ce discours.
On va venir sur leur réaction, mais
Donc Clio présente la liste des hauts faits, des faits les plus glorieux de Napoléon, du règne de Napoléon, la conquête d'Italie, l'Égypte conquise, le passage des Alpes, l'ordre rétabli, le Louvre achevé, évidemment, puisque tous ces personnages se trouvent devant le Louvre. Et il se trouve que Napoléon est présent à travers un buste. Il est représenté ici à la romaine, tel Jules César, puisqu'on voit l'inscription Veni Vidi Vici prêtée par Suétone à César. Il est coiffé de laurier. Cette vision de l'histoire universelle, selon laquelle, eh bien, l'histoire ne serait que la succession de grandes civilisations, depuis la Grèce ancienne jusqu'à Rome, puis Byzance, puis l'Empire carolingien, puis les grandes cités italiennes, puis le siècle d'or espagnol, puis Louis XIV et le grand siècle français au XVIe.
Quand même toujours 16e. Un petit peu autour de l'Europe et du Proche-Orient.
Alors, vous avez compris, Thomas, la finalité de cette histoire universelle. Il s'agit de toujours conférer à l'Europe le premier rôle, le rôle d'architecte du devenir historique du monde. Et cette histoire universelle se poursuit ensuite au XIXe siècle avec le siècle de Victoria, la Grande-Bretagne devenant le plus grand empire du monde. Et l'idée est, au fond, de donner du sens à l'histoire. Une histoire qui pourrait être autrement chaotique, eh bien, cette histoire universelle, cette translation impérie, ce déplacement du foyer de civilisation...
Souvent sous la pression des politiques aussi, qui veulent qu'il y ait un roman.
C'est exactement ça, ce roman universel s'articule parfaitement, alors plus ou moins bien, disons, mais là, c'est une très belle illustration de la manière dont les élites françaises ont tenté d'articuler cette histoire universelle avec le roman national, puisque la France joue un rôle ici éminent dans ce devenir du monde.
Alors, j'aime beaucoup ce tableau parce qu'on a l'impression que le peintre, c'est une commande, évidemment, ça a l'air vraiment d'être une commande, mais il est quand même un petit peu facétieux parce que le visage de tous ces représentants du reste du monde est quelquefois un peu dubitatif. Il y en a qui sont admiratifs, il y en a qui se demandent si on se fout pas un peu de leur gueule.
C'est ce qui nous a intéressé, c'est pourquoi nous l'avons disposé au tout début de l'exposition, parce que la réaction de tous ces personnages est troublante. Le russe à la chapka semble réfractaire, puisqu'il oppose sa main comme cela à la muse Clio. Le personnage noir trahit, sinon sa prudence.
Oui, il se cache un peu. Même.
Voilà, il se cache un peu, mais disons que ses yeux trahissent une forme de méfiance à l'égard du discours. Et puis vous avez le personnage Han, chinois, qui, alors lui, carrément, détourne les yeux et regard d'ailleurs. Donc il y a cette idée qu'au fond...
Et puis le personnage du Proche-Orient, je ne sais pas si c'est un Turc ou il lui a l'air réfractaire.
Alors lui, le personnage oriental, lui, semble s'indigner même de ce discours. Et donc c'est ça qui est particulièrement intéressant.
Avec les Européens qui sont un peu admiratifs.
Exactement, oui, au premier plan, tout à fait à droite, un Européen qui, la main sur le cœur, semble adhérer au discours de la Muse Clio.
France Inter, en quête de politique. Thomas Legrand.
Alors là, il y a un autre aspect, évidemment. On était dans l'histoire et l'ethnocentrisme historique. On passe à la géographie avec un classique, le décentrage géographique. Et vous proposez, tout au long de l'exposition, une autre carte du monde, une autre planisphère. Expliquez-nous.
Oui, c'était très important pour nous parce que la géographie, c'est un outil indispensable de la conquête du monde, de son appropriation concrète de territoire, de la colonisation. Mais c'est aussi un outil fondamental de l'appropriation symbolique du monde en donnant des noms à telle ou telle région, en nommant les continents, etc. L'Europe s'est véritablement appropriée le monde entier à travers la cartographie depuis le Moyen-Âge et surtout à l'époque moderne et contemporaine. Cette tradition cartographique occidentale, en fait, à travers l'expansion coloniale à partir du XVIIIe siècle notamment, eh bien, s'est imposée dans le reste du monde au détriment, aux dépens d'autres traditions qui existaient, qui étaient extrêmement fécondes, vivantes, diverses, riches, y compris d'un point de vue scientifique, puisqu'en fait, il y a une tradition cartographique chinoise dont on sait aujourd'hui, notamment à travers la fameuse carte de Yu en 1132, qu'elle est beaucoup plus fidèle et respectueuse de la transcription de l'espace. On sait ça parce que des ingénieurs ont fait des comparaisons grâce aux satellites.
Aux mêmes époques, les
Chinois. Aux mêmes
époques,
si vous voulez, pour simplifier, les Chinois ont plusieurs siècles d'avance en 1132 par rapport à la fameuse carte de Cassini en France au XVIIIe siècle. Notamment sur la précision du dessin des côtes, la localisation des villes, des reliefs, parce qu'ils utilisent une technique, qui est une technique de quadrillage qui leur permet de représenter de manière fidèle l'espace. Mais il existe tant d'autres manières de représenter l'espace en Amérique du Nord, dans le Pacifique, avec les cartes à bâtonnets, qui permettent à ces marins de Micronésie, en l'occurrence, puisqu'on expose ici une carte des îles Marshall, donc faite de bâtonnets, de bois de coco et de coquillages, qui en fait permettent à ces marins de se déplacer sur de très longues distances dans le grand océan Pacifique.
On a aussi dans l'idée que seuls les Européens ont fait le tour du monde, seuls les Européens avaient cette curiosité d'aller voir les autres pays, et seuls les Européens d'ailleurs décidé qu'un pays existait à partir du moment où il était cartographié par eux et colonisé par eux.
Oui, cette exposition, Une autre histoire du monde, et ce livre, en fait, entendent montrer qu'il a existé d'autres formes de mondialisation avant la mondialisation coloniale et impériale européenne du XVIIIe siècle. Alors, on peut remonter à l'Empire mongol, au XIIIe, XIVe siècle, qui permet toute une série de circulations, d'interactions culturelles entre la Corée et l'Est de la Méditerranée. Il y a la mondialisation dans l'océan Indien, au sein de laquelle les Européens ne jouent qu'un rôle marginal. Et en effet, ces différents voyages maritimes, terrestres, n'ont pu s'effectuer aux quatre coins du monde que grâce à ces riches traditions cartographiques qui ne relèvent pas du tout de la science occidentale. Et il se trouve que tout au long de l'exposition, vous l'avez dit, à travers de nombreuses cartes, l'idée est de renverser la perspective et de s'inscrire dans une tradition assez ancienne, à la fois chez les artistes et chez les cartographes, qui permet au fond de dévoiler l'absurdité de certaines conventions cartographiques occidentales. C'est-à-dire, par exemple, placer l'Europe en haut et au centre de la carte, eh bien c'est évidemment une convention, puisque dans l'espace, il n'y a pas de nord et de sud, de haut et de bas. Et donc, depuis maintenant presque un siècle, un certain nombre de propositions émanant à la fois soit d'artistes, je pense à Joachim Torres, par exemple, l'artiste uruguayen, ou alors des chercheurs comme Peters, eh bien proposent d'autres représentations cartographiques. Peters, eh bien, c'est dans les années 70, une manière de représenter plus fidèlement les différentes surfaces des continents, c'est-à-dire que, contrairement à la projection Mercator, qui était celle qu'on avait dans les écoles et les cartes murales.
Elle n'est pas simplement trompeuse par la centralité de l'Europe, elle est trompeuse par les dimensions.
Par la superficie des continents, elle surévalue l'importance du continent européen par rapport au continent africain, et la représentation de Peters va remédier à cela.
J'ai commencé à m'intéresser à l'histoire parce que j'ai découvert dans mes études que ce que mes professeurs appelaient l'histoire, l'histoire mondiale n'est pas une bonne histoire mondiale.
Le géographe Arnaud Peters, en 2022.
C'est seulement l'histoire de l'Europe occidentale, avec un peu d'Europe de l'Est, un peu des États-Unis, et très peu de l'Afrique, d'Amérique du Sud ou d'Extrême-Orient et de Chine, d'Inde et ainsi de suite. En réalité, nous ne savons rien de toutes les autres cultures. L'histoire du monde est erronée dans tous nos livres d'histoire du monde. Si vous possédez 10 volumes d'histoire du monde, 5 ou 6 pour les 4 derniers siècles, c'était l'époque où l'Europe était au sommet et dominait le monde entier. Mais les autres grandes cultures, la Chine, l'Inde, l'Amérique du Sud, l'Afrique, etc. Les pays arabes ont connu leur apogée dans d'autres siècles.
Nous sommes toujours à Marseille en visite de l'exposition « Une autre histoire du monde » pour ce premier numéro d'enquête de politique consacré au racisme. L'ethnocentrisme est-il le début du racisme ? C'est la question que nous nous posons aujourd'hui et on continue à suivre notre guide, le co-commissaire de l'exposition, Pierre Saint-Garavello.
On voit bien que sur ces cartes de Peters, hein, il y a une représentation de Peters qui est utilisée par l'artiste congolais Chéri Samba au début de l'exposition, qui titre son œuvre « La vraie carte du monde ». C'est une œuvre de 2011. Et sur cette peinture de Chéri Samba, on voit bien, on s'aperçoit de l'importance de la superficie de l'Afrique par rapport au continent européen.
Mais est-ce que chaque pays ou chaque civilisation ne se représente pas forcément au centre ? Et finalement, est-ce que c'est pas un abus de dire que notre représentation, elle est... impérialiste à partir du moment où elle est simplement, elle nous met au centre parce que c'est le point de départ quand on voyage.
L'Europe n'a assurément pas le monopole de l'ethnocentrisme. Nous retrouvons ce type de représentation dans quasiment toutes les sociétés qui ont toutes tendance à se représenter au centre. Dans la cartographie chinoise, eh bien l'empire du milieu, par définition, se trouve au centre.
C'est marqué dessus.
Dans la cartographie indienne, eh bien le centre du monde, c'est l'Himalaya. Dans la cartographie arabe, eh bien c'est la Mecque. Au fond, il y a là une caractéristique commune à toutes les sociétés du point de vue cartographique.
Pierre Saint-Garavello, je voudrais que vous nous parliez de cette œuvre de 2014 qui est une photo façon peinture classique. C'est un détournement anticolonial. Expliquez-nous.
Oui, alors il s'agit d'une œuvre de l'artiste indienne Pushpamala qui propose cette œuvre intitulée L'arrivée de Vasco de Gama, qui est, comme vous l'avez dit, une photographie où elle se représente elle-même habillée, grimée en Vasco de Gama. Et c'est une manière, au fond, de subvertir le grand récit des découvertes. Ces fameuses grandes découvertes, elles nous rappellent, au fond, que eh bien Vasco de Gama n'a pas découvert les Indes, que lui-même a eu besoin d'un pilote indien pour traverser l'océan Indien depuis les côtes africaines, sans lequel il aurait eu le plus grand mal à atteindre l'ouest de l'Inde.
Parce que sur cette œuvre, on la voit donc grimée en Vasco de Gama avec une barbe et un chapeau, entourée de tous ceux que Vasco de Gama a pu croiser pour arriver jusque-là et des locaux. Et finalement, qu'est-ce que ça dit ? Ça dit que ceux qui étaient là avaient découvert leur pays avant puisqu'ils y étaient.
Oui, alors non seulement cela, mais ceux qui étaient là, en fait, commerçaient depuis des siècles avec à la fois marchands africains de Zanzibar, de l'est du continent africain, mais aussi avec les marchands du sud-est asiatique. En fait, tous ces acteurs indiens étaient insérés dans une mondialisation extrêmement intense et féconde au 14e, 15e, 16e siècle.
Ça nous rappelle que ceux que l'on découvre existaient avant et commerçaient et voyageaient. Ils n'étaient pas simplement des individus statiques perdus dans... passifs perdus dans leur contrée qu'on n'avait pas encore découvert.
Précisément, et on peut avoir le même raisonnement concernant toutes les régions du monde, y compris alors l'Amérique et la fameuse découverte de l'Amérique, en considérant qu'à la fin du premier millénaire de notre ère, eh bien Polynésiens avec leurs bateaux à balancier débarquent en Amérique du Sud, avant les Vikings, bien avant Christophe Colomb qui mettra un pied sur le continent en 1498 et pas en 1492 puisqu'il s'était arrêté dans la Caraïbe. Et c'est intéressant parce que lorsqu'on s'intéresse à ces dites grandes découvertes, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, ce qui est le plus troublant, c'est la manière dont les grandes nations du monde revendiquent, chacune revendique, la découverte de l'Amérique. Erdogan a pu prononcer un discours en 2015 où il revendiquait la découverte de l'Amérique par un explorateur musulman.
Latino-américain, islam la tanışması.
J'aimerais porter votre attention sur le fait que l'Amérique latine fait connaissance avec l'islam que depuis le XIIe siècle. On nous a toujours répété que le continent américain fut découvert en 1492 par Christophe Colomb, alors qu'en 1178, c'est-à-dire 314 années avant, des marins musulmans avaient déjà jeté l'ancre aux abords du continent américain. 1178 ! D'ailleurs, on mentionne une mosquée sur une colline de la côte cubaine dans les souvenirs de Christophe Colomb.
Les Chinois, à travers, y compris, quand je dis les Chinois, c'est le gouvernement chinois, bien naturellement, qui, au tournant des années 2000, a commencé à revendiquer la découverte de l'Amérique en s'appuyant sur des forgeries cartographiques, des fausses cartes qui prouveraient, en fait, la découverte de l'Amérique au début du XVe siècle. En fait, il se trouve que, et souvent des gouvernements plutôt de type autoritaire, considèrent cette découverte de l'Amérique comme un tournant de l'histoire de l'humanité, qu'il faut absolument s'approprier. Ça n'a pas de sens dans la mesure où 20 000 ans auparavant, les Amérindiens commençaient à peupler le continent américain. Donc il faut absolument à chaque fois retracer cette généalogie pour bien comprendre à quel point ce discours comporte une dimension idéologique forte.
Alors Pierre Saint-Garavello, il y a des estampes, des tableaux, des œuvres dans cette exposition et dans ce catalogue qui sont un renversement de perspective. C'est-à-dire qu'on voit Paris, on voit des paysages européens peints par des peintres et des artistes chinois.
Oui, parce qu'en fait, on s'est beaucoup intéressé à l'orientalisme, aux différentes formes de discours orientalistes produits par les Européens, les savants européens, puis les romanciers européens.
Il y a eu une mode même de l'esthétisme.
Bien sûr, les tableaux, les peintres de la Croix, etc. Donc 18e, 19e siècle, à juste titre, parce que cet ensemble de savoirs et de représentations ont déterminé notre manière de percevoir l'Orient, l'Extrême-Orient, en Europe notamment. Et on a proposé d'inverser la perspective en considérant qu'il existe aussi de multiples formes d'occidentalisme. C'est-à-dire de manière de représenter l'Europe dans ses diverses sociétés africaines, arabes, japonaises, indiennes, chinoises. Là, on a des exemples d'estampes japonaises qui représentent de manière totalement fantasmée les capitales européennes. C'est-à-dire que Paris et Londres sont représentés par exemple comme des ports maritimes et non pas des ports fluviaux.
Oui. Ça ressemble pas du tout à Paris.
Donc, les artistes ne se sont jamais rendus à Paris, ils ne travaillent pas à partir de documentation ou de gravures, mais ils imaginent à partir de ce qu'on peut raconter de ces capitales, ce à quoi elles pourraient ressembler. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, cet occidentalisme a pu aussi induire des formes de racisme. C'est le cas en Chine, où, en fait, au 18e et au début du 19e siècle, les populations européennes sont représentées par les mandarins chinois comme des... alors souvent sous la forme d'animaux, ou sont plutôt animalisés, comme des êtres sentant très forts...
sont déshumanisés.
Étant très poilus, sont déshumanisés, très poilus, et surtout des populations non civilisées, parce que ne respectant pas les rites, ce qui est très important dans la civilisation chinoise. Et donc, on voit bien comment, lorsque les Européens, notamment les Britanniques et les Français, vont forcer l'entrée en Chine avec la première guerre de l'opium en 1839, eh bien cela va conforter les élites chinoises dans cette représentation des Occidentaux qui sont vus comme éminemment matérialistes et brutaux.
Brutaux, agressifs.
Exactement. C'est pourquoi là, en fait, la frontière, si vous voulez, entre orientalisme, occidentalisme et racisme est souvent un peu floue, parce que à coup sûr, il ne s'agit pas de racisme scientifique, mais il y a quand même là la volonté de catégoriser les populations et d'inférioriser tout de même certaines populations. Là, en l'occurrence, ces sauvages venant de l'Ouest, ces Européens.
France Inter, enquête de politique. Thomas Legrand.
Nous sommes au Mucem à Marseille et nous visitons avec l'historien Pierre Saint-Garavello l'exposition Une autre histoire du monde et nous en sommes à la fabrication des stéréotypes.
Là, Pierre Saint-Garavello, on est devant des estampes assez étonnantes parce que ce sont des représentations de la civilisation européenne, enfin en tout cas des éléments de la civilisation européenne, la modernité, la voiture, l'avion, on est au début du XXe siècle et on pourrait penser, nous on pense que ce sont des éléments de modernité très positifs, des éléments d'apport à l'humanité dont les Européens sont fiers, la technique. Et là, on voit, on a l'impression qu'on se moque de nous. On se moque des Européens, on se moque du matérialisme, on se moque des avions, des voitures.
Oui, en fait, ce sont des estampes d'autant plus intéressantes que ce sont des estampes populaires qui circulaient au sein de la population. Et donc, ces estampes populaires ont pour fonction, dans la première moitié du XXe siècle, de moquer, en fait, les pratiques occidentales.
Ouais, on n'admire pas la voiture et le progrès technique.
Et notamment cette modernisation importée, et qui est considérée comme imposée, une modernisation qui parasite, en fait, le mode de vie traditionnel, les pratiques locales. Et en fait, ça fonctionne très très bien, parce qu'en réalité, on tourne, ici, les colonisateurs en ridicule.
Et c'est assez contre-intuitif, parce qu'on pourrait se dire... Sur tout ce qui est des mœurs ou des modes de vie, on peut comprendre que les différences créent du racisme, mais pour ce qui est des progrès techniques, on avait l'impression que bon, ça pouvait pas être critiqué de la sorte. Et en fait, si.
Bah, c'est-à-dire que c'est un progrès technique qui est réservé aux seuls colonisateurs.
Oui, c'est ça.
Les colonisés n'en bénéficiaient pas du tout. Et donc, ça fait qu'ils adoptent plus aisément un regard critique à l'égard de cette soi-disant modernisation.
Pierre Saint-Garavello, là, on est devant une série d'affiches de films très récents, 2019, 2020, de films de guerre tirés de Bollywood, de l'industrie cinématographique indienne, avec du roman national. Est-ce que le roman national est un vecteur de création de stéréotypes et donc de racisme d'une civilisation ou d'un pays envers l'autre, envers son voisin?
Oui, a fortiori aujourd'hui. C'est ce qu'on observe à la fois en Turquie avec le néo-ottomanisme d'Erdogan, mais aussi en Chine et en Inde. Alors en Inde, tout particulièrement avec le gouvernement nationaliste hindou de Narendra Modi, qui promeut à travers le cinéma ce roman national qui en fait est une réécriture de l'histoire. L'histoire est constamment actualisée. Mais là, aujourd'hui, dans ce cadre de l'identité hindoue exacerbée par le gouvernement du BJP, eh bien, il s'agit dans ces super productions de Bollywood, par exemple, de gommer l'influence des musulmans à travers l'histoire, y compris de gommer l'importance des Moghols, des empereurs moghols au XVIIe et XVIIIe siècle. On assiste là à une véritable réécriture de l'histoire à travers le cinéma et donc qui touche le public, le grand public indien, y compris ceux qui n'ont pas eu accès à l'école.
Pierre Saint-Garavello, est-ce que dans tous les coins du monde, on est raciste envers ses voisins ?
Alors tout dépend de la définition que vous donnez au vocable racisme. Si vous adoptez une acception large, qui serait par exemple le fait de postuler la supériorité intrinsèque de certains groupes sociaux par rapport à d'autres, supériorité sur laquelle ces groupes dominants s'appuieraient pour discriminer des groupes dominés, eh bien à ce moment-là, oui, on retrouve des formes de racisme aux quatre coins du monde, y compris au sein d'une même société. L'Inde, de ce point de vue, est très intéressante parce que...
Avec les castes,
on a très peu discuté du racisme en Inde dans le débat public. Disons que c'est à l'occasion de la conférence mondiale contre le racisme à Durban en 2000 ans que cette question émerge en fait au sein de la société indienne. Pourquoi ? Eh bien parce que des militants dalits, vous savez, les dalits, ce sont ce qu'on appelait avant les intouchables. Un quart de la population indienne à qui on confie les tâches les plus ingrates, les plus difficiles dans la société, notamment par exemple s'occuper des excréments. Et ces dalits ont été historiquement extrêmement discriminés, opprimés par
le racisme social, c'est pas du racisme
Alors,
ethnique.
C'est à la fois du racisme social, mais c'est un racisme qui est hérité, puisque c'est l'ascendance et le métier qui est déterminant. Et donc, en effet, ça n'est pas le phénotype, mais il n'empêche que le fait qu'on hérite cela de père en fils et de mère en fille, eh bien, fait que ces inégalités extrêmes se reproduisent au sein de la population indienne. Et c'est ce qui fait que, eh bien, aujourd'hui, les militants dalits considèrent que le castéisme est une forme de racisme, une des pires formes de racisme qui soit. Ça nous rappelle aussi la polémique qui a eu lieu récemment au sujet de Gandhi. Gandhi, le père de la nation, qui en fait a lui aussi été accusé de racisme lorsqu'il est parti tout jeune travailler comme avocat en Afrique australe. Il part en 1893 s'installer à Durban puis à Pretoria. Et il y a ce fameux épisode où, à peine arrivé, il prend le train et il s'installe en bon bourgeois qu'il est. Il a fait toutes ses études à Londres, il s'habille en costume trois pièces, il s'installe en première classe. Et là, un contrôleur sud-africain lui demande de partir s'installer en troisième classe avec les coulis et avec les Africains.
Tu peux nous dire ce que tu fais dans ce wagon coulis ?
Mais j'ai un billet de première classe.
Extrait du film Gandhi de Richard Attenborough en 1982.
Tu l'as eu comment ?
Je suis avocat et il aurait fallu que je puisse passer
au... Il n'y a pas d'avocat de couleur en Afrique du Sud. Pas là où c'est prévu.
Votre valise, je vous la porte à l'arrière.
Non. Tenez, lisez. Mohandas K. Gandhi, avocat.
Il n'y a aucun avocat de couleur en territoire sud-africain.
Monsieur, j'appartiens au barreau de Londres.
Direz-le.
Écoute-moi, négro. Tu vas filer en troisième classe. Sinon, je te fous dehors au prochain arrêt.
Ça, il ne le supporte pas, il ne comprend pas. Lui, en tant que bourgeois, il n'a rien à faire là-bas. Et donc, il découvre, au fond, à ce moment-là, la condition des coulis indiens, des travailleurs indiens pauvres, qui sont très nombreux en Afrique du Sud à ce moment-là, et qui fait qu'encore aujourd'hui, il y a 2 500 000 personnes d'origine indienne en Afrique du Sud. Mais ça ne change pas sa vision des populations africaines. C'est-à-dire que, dans les années qui suivent, on a retrouvé des lettres où, eh bien, les Africains sont toujours considérés comme inférieurs. Donc voilà, donc on voit comment, eh bien, les stéréotypes peuvent subsister, y compris dans la pensée de Gandhi.
On poursuit notre déambulation dans l'exposition « Une autre histoire du monde ». Nous décentrons notre regard avec l'historien Pierre Sagaravello, qui est l'un des concepteurs de cette exposition et le co-auteur du catalogue paru chez Gallimard.
Ce qui est important de retenir, notamment puisqu'on est en Asie, notamment dans les situations coloniales qui ont été très nombreuses dans le continent asiatique, la plupart du temps, le racisme est une construction sociale. C'est très important parce que on voit bien que dans l'Indochine française, eh bien, les Japonais qui sont présents sont considérés comme des Européens. Alors qu'au même moment, les Chinois qui vivent en Indochine, qui vivent au Vietnam par exemple, sont considérés comme des Asiatiques. Et ça montre bien que le phénotype ne dit pas tout, loin de là, que en fait le racisme se construit aussi, je dirais, sur le terrain, dans chaque situation coloniale, dans chaque interaction. De la même manière, en Algérie, eh bien, les colonisateurs français au XIXe siècle vont s'évertuer à expliquer qu'une partie de la population, les Kabyles, étaient d'ascendance européenne, par rapport aux Arabes, héritiers de ces invasions venant de très très loin. Et donc, il y a la volonté, si vous voulez, dans le cadre d'une politique de diviser pour régner, au fond, de catégoriser les populations, en inventant parfois des généalogies, en inventant...
Et comment était perçue, au plus fort de la colonisation, la question du racisme par les colonisés? Est-ce que c'était perçu comme une injustice, ou eux-mêmes avaient intégré le fait qu'il y avait des différences entre, non pas les cultures, mais entre les races, entre eux et ceux qui les avaient colonisés, qui n'ont pas la même couleur qu'eux?
En fait, dès l'émergence de ce qu'on a appelé le racisme scientifique, qui est en fait un racisme pseudo-scientifique au milieu du XIXe siècle, décolonisés critiquent cette nouvelle idéologie européenne. Alors, on a aujourd'hui de nombreux exemples. James Africanus Horton, qui est un médecin dont les parents sont des esclaves qui viennent du Nigeria et qui fait ses études en Angleterre, King's College, et qui officie sur toute la côte ouest de l'Afrique et qui là observe les différentes populations pour publier un grand livre en 1868 où il démontre les capacités intellectuelles des populations d'Afrique de l'Ouest notamment pour en fait remettre en question ces théories racistes. En dépit de ces critiques, en réalité, il faut attendre l'entre-deux-guerres et même au lendemain de la Seconde Guerre mondiale pour que des intellectuels issus des colonies proposent à nouveau des critiques radicales de l'idéologie raciste. Alors c'est Aimé Césaire, bien entendu, dans son discours sur le colonialisme en 1950. Et puis, il y a surtout un auteur qui va proposer une critique radicale du racisme et en fait de tous les racismes. C'est Frantz Fanon. Frantz Fanon publie quelques temps après, 2 ans plus tard, 1952, Peau noire, masque blanc. Et ce qui est très important dans la pensée de ce jeune médecin, psychiatre, d'origine martiniquaise, eh bien, c'est qu'il montre que la colonisation aliène aussi bien le colonisateur que le colonisé. Fanon, en fait, nous explique bien que cette colonisation, cette situation coloniale produit différentes formes de racisme, mais aussi d'identitarisme. Et c'est pour ça que Fanon se méfie beaucoup de la négritude. Il pense que la négritude est un mouvement politique intéressant en cela qu'il peut participer à l'émancipation des populations colonisées, et il a beaucoup d'admiration pour Aimé Césaire. Mais il se méfie de la négritude et notamment de certains écrits de Senghor, qui ont tendance à essentialiser les identités. Et c'est pourquoi, au fond, l'analyse de Fanon est toujours aussi féconde aujourd'hui.
France Inter, en quête de politique. Thomas Legrand.
Nicolas Delmas est à la technique aujourd'hui et c'est Thierry Dupin qui programme la musique. Retour dans nos studios à Paris après notre visite au Mucem avec Pierre Sagaravello, que nous retrouverons dans son bureau à la Sorbonne pour le 4e épisode d'Enquête de politique consacré au racisme. Il nous faut nous pencher maintenant sur une phrase et son histoire, sa réalité et sa signification. Les Grecs et les barbares, nous et les autres. Est-ce de l'ethnocentrisme? Est-ce du racisme? Est-ce même l'invention du racisme? C'est la question que j'ai posée à Adeline Grand-Clément, historienne de l'Antiquité grecque à l'Université de Toulouse, autrice de « Au plaisir des dieux » aux éditions Anacharsis. Adeline Grand-Clément.
Alors, c'est une question qui nécessite en fait de définir ce qu'on entend par racisme, évidemment. Ce qui est certain, c'est qu'on trouve chez les Grecs cette idée qu'il y a les Grecs d'un côté et puis en bloc tous les autres peuples, en fait, qu'ils appellent barbares. Et le terme barbare, au début, n'a pas la connotation négative qu'elle a aujourd'hui.
Parce que comme le mot barbare est un mot négatif aujourd'hui, voilà ce qu'on pense.
Mais en
l'acception était différente.
Oui, au départ, c'est juste une onomatopée. C'est dire tous ceux qui ne parlent pas comme nous. Et puis, évidemment, après, il y a eu aussi un certain nombre d'auteurs qui ont un peu clarifié cette opposition, ou en tout cas l'ont mise en avant, cette opposition entre les Grecs et tous les autres, les barbares, tous les non-Grecs, notamment l'historien Hérodote. Dans un contexte bien particulier, le contexte d'écriture des guerres médiques. Et donc là, il s'agissait d'opposer un peu deux blocs. Le bloc des Grecs, et d'ailleurs qui n'a pas du tout été complètement uni lors de la guerre, hein, c'est une fiction. Donc il y a eu des Grecs qui ont collaboré et qui se sont soumis aux Perses. Et puis de l'autre côté, donc les Perses avec une armée multiethnique.
Et là, on a commencé à hiérarchiser, c'est-à-dire que ce qui n'était peut-être qu'un ethnocentrisme peut être appelé aujourd'hui, puisque le mot racisme est un mot moderne, peut être considéré comme un début de racisme ou pas ?
Moi, je ne le pense pas, en fait. Je pense que c'est vraiment deux choses différentes. Il y a eu un ouvrage d'un historien, Benjamin Isaac, en 2004, qui parle d'invention du racisme dans l'Antiquité. En fait, il parle de proto-racisme. Mais je pense qu'on ne peut pas confondre racisme et ethnocentrisme. Ce qui est certain, c'est que les Grecs ont eu un sentiment de supériorité, en fait. Et donc, ont eu tendance à trouver que leur système d'organisation politique, la cité, était supérieur à celui des autres, et en particulier des Perses, avec un système monarchique, un pouvoir autoritaire. Ils ont opposé des hommes libres qui se battaient avec courage à d'autres peuples, et donc notamment les Perses, soumis à un grand roi, qui était là pour combattre au nom du grand roi, mais pas pour leur propre liberté, en fait.
Et donc, on va écouter un extrait de Péplum, et vous allez commenter ça. Alexandre le Grand, film américain de 1956 de Robert Rossan.
Le peuple grec est un peuple d'élection. Notre culture est supérieure. Notre civilisation, nos hommes sont supérieurs.
Attention !
Tous les autres peuples sont des barbares. Et il est de notre devoir de les soumettre, de les réduire en esclavage et, s'il le faut, de les exterminer. Le mode de vie des Perses conduit aux abandons et aux lâchetés. Celui des Grecs implique le courage et la volonté de conquête.
Voilà, on est au 4e siècle avant Jésus-Christ. Un ethnocentrisme quand même un peu agressif.
Bah là, c'est un péplum, en plus un péplum états-unien, donc je pense qu'il y a, et c'est ça qui est assez fascinant, hein, cette réélaboration aussi de l'Antiquité qui s'opère au cours des siècles et qui sert un peu de miroir à nos sociétés occidentales contemporaines. Hein, et ça l'est beaucoup, notamment dans les mouvements suprémacistes blancs aujourd'hui. Donc il faut faire attention à ça. Donc là, on est dans un péplum états-unien. Bon, Aristote. On choisit Aristote.
Oui. Voilà. Aristote, donc 4e siècle.
4e siècle, exactement. Donc il a été effectivement le précepteur d'Alexandre le Grand. Et c'est quelqu'un qui va effectivement théoriser des systèmes de domination. Là, on est vraiment sur une question de domination. Il a été élève de Platon. Il s'en démarque notamment dans sa position par rapport à l'esclavage. C'est lui qui va dire qu'il y a des esclaves qui sont esclaves par nature. Et c'est bien qu'ils soient dominés.
Les peuplades des régions froides, c'est-à-dire de l'Europe, sont pleines de cœur, mais sont plus dépourvues d'intelligence et d'habileté. C'est pourquoi elles vivent plutôt libres, mais ne s'organisent pas en cité et ne sont pas capables de commander à leurs voisins.
Aristote, les politiques.
Celles d'Asie, par contre, ont l'âme intelligente et habile, mais sont sans courage. C'est pourquoi elles vivent dans la soumission, c'est-à-dire l'esclavage. La race des Hellènes, comme elle occupe une région intermédiaire, partage certains caractères avec les deux groupes précédents. Elle est en effet à la fois pleine de cœur et intelligente. C'est pourquoi elle mène une vie libre sous les meilleures institutions politiques et est capable de commander à tous les peuples.
Celui qui par nature ne s'appartient pas, mais qui est l'homme d'un autre, celui-là est esclave par nature. Et est l'homme d'un autre celui qui, tout en étant un homme, est un bien acquis. Et un bien acquis, c'est un instrument en vue de l'action et séparé de celui qui s'en sert.
On a quand même Adeline Grand-Clément, beaucoup d'éléments du futur racisme scientifique. Il y a des explications climatiques, des explications géographiques et le statut qui viendra plus tard de meuble. L'esclave est un meuble.
Oui, là en fait se mélangent deux choses. Il y a cette pensée hippocratique qui naît au 5e siècle et qui en fait a des racines plus anciennes, de différencier à la fois les phénotypes et aussi les caractères moraux des peuples en fonction du lieu où ils habitent et en fonction du climat. C'est le traité hippocratique qui s'appelle Ère au lieu.
Alors écoutez, justement, on a Hippocrate aussi, on a Hippocrate, c'était dans LSD sur France Culture du 13 juin 2022.
Hippocrate, traité des airs, des eaux et des lieux.
Pour ce qui est des climats, la race scythe diffère de toutes les autres. La contrée de la Scythie est située précisément sous l'Ours et au pied des monts Riphée. Il n'y souffle que des vents du septentrion refroidis par la neige, la glace et les pluies abondantes. Les Scythes respirent toujours un air épais et humide, boivent des eaux de neige et de glace et sont peu propres à supporter les fatigues. Et à cause de cette humidité et de cette atonie, ils ne sauraient ni bander un arc, ni soutenir avec l'épaule le jet du javelot. Car ni le corps, ni l'esprit ne peuvent soutenir la fatigue dans les pays où les saisons ne présentent pas de variations notables. Quant au reste des Européens, ils diffèrent entre eux par la forme et la stature. Parce que les vicissitudes des saisons sont intenses et fréquentes. La coagulation du sperme doit subir des altérations plus fréquentes dans un climat sujet à de nombreuses vicissitudes atmosphériques que dans celui où les saisons se ressemblent à peu de choses près et sont uniformes. Le même raisonnement s'applique également aux mœurs. Une telle nature donne quelque chose de sauvage, d'indocile, de fougueux. C'est pour cela, je pense, que les habitants de l'Europe sont plus courageux que ceux de l'Asie.
Voilà, on a vraiment presque la naissance des stéréotypes. Hippocrate parle des Scythes, donc ce sont les ancêtres des Iraniens, des Européens. Au milieu de sa phrase, à un moment, il dit « je pense », donc c'est moyennement scientifique. Ça ne serait pas la naissance de ce qu'on appelle les stéréotypes ?
Il y a une forme, oui, de dimension stéréotypique dans ce qu'il présente. C'est un effort, en fait, de typologie à partir des données climatiques. Le traité hippocratique Ère au lieu, il a été écrit comme un manuel pour des médecins qui voyageraient et pour les aider à comprendre, quand ils arrivent dans un pays qu'ils ne connaissent pas, une région, quels sont les types de maladies qui vont prédominer et quelle est la constitution générale de ces populations. Donc oui, il y a une dimension un peu, on typologise, etc.
Il typologise, mais après, il en tire des conclusions sur les capacités.
Exactement, sur les capacités.
Il hiérarchise.
Ouais. Et voilà. Et donc c'est là qu'après, il y a une dimension morale qui se rajoute, et là qui, pour nous, est plus étonnante pour un médecin, qui va attribuer aussi des caractéristiques morales, donc du courage ou pas. Et tout ça, c'est lié aussi à une constitution physique. La mollesse va être avec du côté de l'humidité, va être du côté d'un teint pâle. Et c'est l'occasion pour moi de dire que s'il y a bien une différence entre les Grecs et les Romains et nous, parmi plein d'autres, c'est que jamais ils ne se sont pensés comme blancs. Or, dans les débats autour du racisme, dans le racisme se joue plein de choses. Il y a des systèmes de domination, il y a cette idée de peut-être de l'ethnocentrisme qui peut être comme une sorte de premier noyau, mais il y a aussi la question du préjudice de couleur. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne va pas voir. Les Blancs, ce sont les Perses qui sont amollis. Ce sont les Scythes qui ont un teint plus clair à cause du climat. On voit en fait la complexité de ce qui se joue dans le traité que vous avez passé un extrait, qui nécessite de recontextualiser vraiment ce document et on ne peut pas le prendre comme ça. Dans l'Antiquité, on a plein de mots. Il n'y en a pas un qui serait exactement l'équivalent du mot « race ». On va avoir « génos », mais ça veut dire aussi la famille, ça vient de ce qui est généré. On va avoir « ethnos », ça veut dire le peuple, en fait. On va avoir « phulon », »,« phulet », qui vient de « fuo », qui veut dire « croître », comme les végétaux, hein, c'est les espèces, les genres, les catégories. Donc parfois on dit « l'espèce des femmes ». Parfois, c'est traduit par la race des femmes, par opposition à la race des hommes. Il y a comme ça l'idée qu'il y a plein de généalogies et plein de groupes. Et donc, les Grecs, ils forment un de ces groupes. Mais à l'intérieur des Grecs, il y a des groupes. Et entre cités, on ne s'entend pas. Et par exemple, les Athéniens sont fiers de leur autochtonie. Elle vaut juste pour eux. Elle ne vaut pas pour les Spartiates ou des Corinthiens qui viendraient chez eux. Donc, il y a des étrangers, mais ces étrangers, ils sont de multiples natures. Et les questions de domination et dévalorisation de l'autre, elles peuvent porter entre Grecs.
Donc, il y a un souci finalement d'essayer d'expliquer le monde, de trouver des particularités et de définir les peuples. il n'y a pas de racisme formel lié à la couleur, mais on a vu qu'il y a quand même une hiérarchisation. Est-ce que cette hiérarchisation sert de prétexte ou de justification à des politiques de domination? Est-ce que c'était le propos des deux philosophes qu'on vient d'entendre?
Alors, je pense que effectivement, dès qu'on a une action impérialiste, c'est typiquement un type de rhétorique qui peut servir, en fait, de dire l'autre est inférieur, donc la conquête de cette région, elle est légitime. C'est, voilà, quand on fait la guerre ou quand on essaie de conquérir des territoires. Donc ça, c'est valable pour les conquêtes d'Alexandre le Grand, évidemment. Mais en même temps, il y a une grande curiosité, en fait, de la découverte de toutes ces régions. Alexandre le Grand, il s'entoure d'une noblesse iranienne. Il ne va pas rejeter du tout les structures politiques achéménides, mais il va se fondre là-dedans. D'ailleurs, ça va lui être reproché hein, par certains Grecs et certains Macédoniens. On a des contacts avec l'Inde. Donc, peut-être qu'au départ, ça peut être un des moteurs de conquête de dire on va s'en prendre aux Perses. Mais il y a toujours, quand même, de l'autre côté, une forme d'ambivalence et de reconnaissance aussi des mérites de l'autre dans certains domaines. Je pense à quelqu'un comme Xénophon.
Qui donnera un xénophobe.
Parce que Xénos, c'est l'étranger, ouais. En fait. C'est quelqu'un qui a combattu beaucoup en Asie, et donc qui connaît bien aussi l'Asie, et qui a une forme d'admiration pour les Perses, en tout cas pour le fondateur de l'Empire perse, Cyrus. Je pense que les choses sont toujours plus complexes, mais vous avez raison. En contexte impérialiste, ça va être un outil de la rhétorique au service du pouvoir pour justifier une conquête. L'Athènes impérialiste du 5e siècle va développer cette rhétorique de l'altérité et l'opposition grecque-barbare, elle naît vraiment dans cette Athènes du 5e siècle, c'est pas un hasard.
C'est important ce que vous dites parce que la plupart des historiens ou des chercheurs sur le racisme concluent que la nature humaine n'est pas raciste par nature. On n'est pas raciste par nature, c'est toujours une stratégie. Alors, c'est peut-être un peu désespérant, mais en même temps, on constate, et vous nous le dites, la façon d'essayer de différencier tout ce qu'il peut y avoir dans le genre humain, ça peut relever de la curiosité et de l'intérêt pour l'autre.
Ouais.
Et puis, à un moment, dans un contexte impérialiste, ça peut être utile de se servir de ces différences pour asseoir une domination. Mais ce n'était pas naturel chez les Grecs. Voilà, c'est quand même important de souligner ça, je trouve.
Oui, c'est vrai. Ce qui, en tout cas, est différent entre la période moderne et l'Antiquité gréco-romaine, c'est que, bon, notamment donc, en Grèce, les esclaves ne sont pas tous des non-Grecs. On a, parmi les esclaves, des Grecs eux-mêmes. Donc, la grande catégorie, la grande ligne de fracture entre des libres et des non-libres, qui est vraiment ce qui organise la cité grecque, elle ne se fait pas autour de critères ethniques ou de critères que nous, on qualifierait de ratio, entre guillemets. Donc ça aussi, c'est un aspect à avoir en tête dans une profonde différence par rapport à des formes d'idéologie raciste qui se développent, notamment dans le cadre du commerce d'esclaves transatlantique à l'époque moderne.
L'ethnocentrisme des Grecs n'était pas ethnique, nous dit Adeline Grand-Clément. Dès lors, peut-on parler de racisme? C'est un vaste débat qui divise les historiens. Nous allons retrouver Catherine Grand-Clément la semaine prochaine pour parler des Romains et de ce mythe raciste selon lequel l'Empire romain a périclité à partir du moment où il a perdu son homogénéité ethnique. Et nous partirons à Londres, au King's College, pour rencontrer l'historien portugais Francisco Bettencourt. C'est le spécialiste mondial de l'origine du racisme. Vous pouvez déjà écouter les 4 épisodes de notre série sur le racisme, sur l'appli Radio France. On se retrouve à l'antenne le week-end prochain. L'émission est diffusée le samedi à 18h10 et rediffusée le dimanche à 23h10. D'ici là, n'oubliez pas, si vous ne vous intéressez pas à la politique, c'est la politique qui s'intéressera à vous.